gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, bonsoir, dimanche 22h, bienvenue dans la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org, partout dans le monde, sur les internets comme on dit aujourd'hui. Alors avec ce soir autour de la table, elle est à la technique ce que la calasse était au chant lyrique, Clara.
Bonsoir.
Elle aime la polémique et pourtant elle ne s'appelle pas Victor, Jonathan.
Bonsoir.
Son rire, ah bah oui. Son rire est à la hauteur de la profondeur de ses sujets, Jean-Yves.
Bonsoir.
Voilà.
Et Laurent, et Fabien, et Fab, et...
Voilà, c'est moi. Salut. Oui, j'avais une petite entrée comme ça, tranquille, sympa, bon. Et sinon, alors, si vous voulez nous joindre, ça se passe via internet à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com, tout en minuscules et tout attaché. Et sinon, on a un blog qui se trouve à...
Qui se trouve à blogs, au pluriel, vous l'aurez noté, .radiocanu.org/oublard/ pour les plus vénères du français, la causerie. Voilà, j'espère que vous aurez compris.
Ouais, ou sinon vous allez sur les blogs des émissions sur radiocanu.org et vous trouvez la causerie. Normalement, tous les lundis, il y a une mise à jour, on repasse devant. C'est comme ça que ça marche, je sais pas pourquoi. Et sinon, on a un espace sur Facebook, voilà, et sur lequel, on vous le dit tout de suite, on ne parle pas beaucoup. Donc passez plutôt par le mail, c'est plus pratique pour nous. Voilà, et on va démarrer cette soirée, cette causerie, par Jonathan, qui a envie de nous expliquer un truc sur les nanimaux.
Et oui, parce que tout le monde aime les animaux. Non, c'est pas vrai. Moi, j'aime tous les animaux. Alors, comme toutes mes chroniques, celle-ci a commencé avec un événement particulier, une discussion avec mon chat. Enfin, la plupart des gens qui ont un animal de compagnie considèrent qu'ils peuvent avoir un dialogue avec eux. Alors, pourquoi je pars de ce constat un petit peu gnan-gnan? C'est pas que je fasse de la publicité pour les grandes œuvres de Brigitte Bardot, c'est juste que je me suis posé une question. C'est, est-ce qu'on a le droit de déprécier les autres espèces que l'espèce humaine en tant qu'espèce animale? Je m'explique. Moi, l'idée que je soutiens, c'est que nous sommes des animaux au même titre que les autres animaux. Ça ne veut pas dire que nous sommes égaux avec les animaux. Une fourmi n'est clairement pas égale à un humain, qui n'est clairement pas égale à un hippopotame, qui n'est clairement pas égale à un ornithorynque, qui n'est pas égale... Enfin, c'est bon. Je pense que l'idée est saisie. Ceci dit, est-ce que ça nous empêche de considérer que ces autres individus d'autres espèces ont eux aussi une conscience d'exister, une conscience finalement de s'organiser en société ou non, puisque tous les animaux ne sont pas grégaires, c'est-à-dire que tous les animaux ne vivent pas ensemble. Et donc, est-ce qu'il y a une réelle raison de nous différencier du reste du règne animal? Alors, une conférence de neuroscientifiques apporte une partie de la réponse, c'est-à-dire que le 7 juillet 2012 a été signée donc la déclaration de Cambridge, à laquelle a participé Stephen Hawking. Donc voilà, qui atteste officiellement que tous les êtres animaux ont une conscience et qui a débouché sur la signature d'une pétition qui va dans ce sens et qui donc légitime la lutte contre les tests sur les animaux, l'élevage de masse, etc. Alors. Là, il faut commencer à se positionner politiquement. C'est-à-dire que jusqu'ici, on était sur une question éthique. C'est les animaux, ils sont gentils, c'est nos copains. Et on est tous des espèces différentes, mais à considérer de manière égale. Il faut savoir que quand même, l'espèce humaine, bien qu'elle n'ait pas de griffes, de dents, de fourrure, de période de reproduction précise, etc.
A des dents, hein. Moi j'ai des dents.
Oui, de dents acérées voilà. Qui lui permettent de déchiqueter la nourriture comme ça, fraîchement.
Parce que je me disais, il y a un truc que j'avais et que je trouve ça bizarre.
Non, oui, je ne parlais pas de personnes sans dents ou quoi que ce soit. Hein. Rassurez-vous. Non, pardon, c'était de l'humour mal placé, excusez-moi. Donc je reviens à la question du positionnement politique, car oui, tout est politique, et la question des petits animaux gnangnang et tout mignon est politique aussi. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas instrumentaliser une valeur éthique, pour commencer, donc ça c'est la première chose. C'est pour ça que je ne suis pas du tout en train de dire « Allez, suivons tous les grands combats qui ont lieu sur Facebook en 144 caractères et qui disent qu'il faut tuer tous les humains qui mangent des animaux parce que c'est super mal. » Non, il faut faire la part des choses. Nous, les humains, avons des besoins, notamment des besoins dits omnivores en termes d'alimentation. Et manger des petits animaux végétariens, ça nous fait du bien. Et voilà. Après, libre à tout le monde de penser ce qu'il veut, de trouver des protéines et d'autres divers éléments nutritifs là où bon lui semble. Par contre, quand je parle d'un positionnement politique, c'est que si on part du principe que les animaux sont les animaux dont font partie les humains sont juste une diversité d'espèces qui est renouvelable au fil de l'occupation des niches écologiques et des grandes extinctions, à ce moment-là, on ne peut pas non plus se positionner en grand sauveteur. Alors, c'est là où ça devient délicat. Je pense que c'est inutile, finalement, d'utiliser toute l'éthique autour du règne animal et des grands débats autour de la sauvegarde de certaines espèces ou alors de l'exploitation d'autres espèces, de l'instrumentaliser dans le sens où, finalement, c'est encore se positionner en essayant de... Comment dire ?
D'être sur une forme de morale plus que d'être sur une forme politique, en fait.
C'est ça. Il y a même une forme de domination là-dessus, qui est pas seulement... Enfin, qui est morale, tout à fait, puisque l'éthique est largement engagée, donc forcément, ça rejoint de très très près la morale. Et il y a une forme de domination aussi sur les autres espèces qui sont des espèces à protéger à tout prix. Et de quelle manière ? C'est-à-dire en montrant des horreurs, donc en manipulant le message. Hein. C'est toujours plus le message est violent, plus finalement il contribue à manipuler les personnes. Et donc, quand je vois que d'un côté il y a une énorme avancée au niveau scientifique où on reconnaît que, bien, il y a des individus dans les espèces, et donc finalement rien n'empêche une vraie cohabitation entre les espèces, et que d'un autre côté, il y a, bon, certes, tous les grands manias de l'industrie qui détruisent volontairement des milieux, des habitats naturels, et qui exploitent des espèces.
Le capitalisme, quoi, en fait.
Tout à fait.
C'est le pendant du capitalisme, ça c'est faire du profit à n'importe quel prix. Donc,
c'est l'exploitation de tout ce qui est exploitable, y compris de l'homme par l'homme.
Tout à fait.
Donc voilà, je vais la placer maintenant. Hein, de là au cannibalisme, il n'y a qu'un pas, sauf que le cannibalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme sans gaspillage. Tintadam. Bon, c'était encore un trait d'humour un peu noir. Mais pourquoi ? Parce que finalement, cette question, elle est tragique. Parce que si le jour où on arrivera à réellement considérer les individus des autres espèces animales comme des individus méritant un respect, le fait de les respecter, ça ne veut pas dire d'arrêter de les manger. Ça veut dire d'arrêter de les exploiter comme on les exploite. Ça veut dire d'arrêter de gaspiller, finalement, de faire des choses qui ne sont pas utiles. Et au moment où on les traitera avec respect par rapport à leur position dans la chaîne alimentaire, par rapport à aussi le besoin que chaque espèce a d'installer finalement un maximum de ses congénères sur l'espace possible, bon, à ce moment-là, on pourra dire qu'on aura réglé peut-être pas mal de nos problèmes, nous, humains, à commencer par l'exploitation de nous-mêmes, entre nous-mêmes. Et c'est pour ça que ma petite blague, elle n'est pas si violente que ça, c'est que quelque part, dans toute l'attitude que les humains, à travers les grandes formes d'exploitation qu'on connaît, développent vis-à-vis des animaux, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une attitude qui est assez semblable vis-à-vis finalement des autres humains, des humains qui sont dominés. Et donc, il y a vraiment quelque chose à regarder sur est-ce que finalement on peut se considérer comme au-dessus ? Est-ce que différence, ça c'est sûr, avec une capacité d'adapter notre environnement hors norme, enfin, selon moi, ce qui définit l'humain par rapport au reste des espèces, ses grandes particularités, c'est la technologie, donc le développement de la technologie et le fait de la transmettre, l'adaptation, c'est-à-dire que ça va avec, mais d'une certaine manière, si tu ne t'adaptes pas, tu ne développes pas de technologie. Et l'endurance, puisqu'on couvre quand même pas mal de zones à climat différent et sur des longues durées.
Bon, on est partout quasiment sur la planète. Hein.
C'est ça, on a réussi. Donc, quelque part, si on faisait un reportage sur les humains comme on fait un reportage animalier, on s'apercevrait qu'on ne vaut pas ni mieux ni moins que les autres espèces, qu'on a une organisation sociale qui pourrait être améliorée, qui pourrait être optimisée. Et bon, ensuite, qu'on n'est pas obligé de faire les fiers, parce que quand même, pour faire un petit peu ma Brigitte Bardot, j'ai 2-3 infos à donner. On n'est pas l'animal qui a la plus grande capacité de langage. Il faut savoir que l'octodon, qui est un petit mammifère qui ressemble au chinchilla en Amérique latine, produit plus de 500 sons différents et donc est supposé avoir un langage articulé, même si nous n'avons pas les moyens de le décoder. Il y a le sonar, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les mammifères marins et leurs moyens de communication sur la longue distance. L'igloo, comme on le disait pendant la prépa, c'est l'imitation du terrier de l'ours polaire. Et c'est la même technique, c'est éviter au maximum le vent et la fraîcheur. Et de la même manière, on remarque qu'il y a une adaptation de nombreuses espèces aux infrastructures humaines. Autres espèces animales aux infrastructures, puisque finalement l'adaptation à l'environnement, c'est un moyen aussi de coloniser un maximum.
L'un des meilleurs exemples, c'est le rat qui nous a suivis en bateau en venant d'Inde et qui maintenant est partout dans le monde parce qu'il s'est déplacé en bateau avec nous, puis il est bien maintenant. Enfin, a priori, il a l'air d'être bien lui.
Il s'adapte partout, mais de la même manière que les pigeons. Ouais. Sont quasiment partout dans toutes les villes et finalement voilà. Il y a un vrai positionnement politique à avoir par rapport à comment, par rapport au fait de regarder les autres espèces animales, la façon dont on les regarde, et finalement, est-ce qu'on n'a pas cette manière de faire, voire peut-être plus de considération parfois pour certains animaux que pour certains de nos congénères, c'est-à-dire pour certains autres individus qui ne sont pas de la même espèce que nous, alors que théoriquement, notre but premier, c'est de sauvegarder notre espèce à tout prix. Voilà.
Mais en fait, c'est le lien avec. Pour moi, quand tu parles de lien politique, il se fait de toute façon sur le fait que tu ne peux pas améliorer la condition animale si tu n'améliores pas la condition humaine. Donc, si finalement tu ne réfléchis pas, ne serait-ce qu'à ton système global, qui aujourd'hui s'appelle le capitalisme au niveau mondial et qui entraîne les violences qu'on connaît et les disparités de richesses qu'on connaît aujourd'hui.
Comme tu dis, c'est une question de condition. C'est-à-dire dans quelle. Comment, jusqu'où on peut aller dans le... Oui, en effet, donc comment on traite les individus qu'on considère comme soumis. En fait, c'est ça aussi que... Enfin, en effet, il y a ce rapport au capitalisme et à l'exploitation de tout.
À l'exploitation,
tout le temps.
En fait. Enfin,
par l'exploitation, il y a aussi un système de domination qui pousse à réfléchir toujours en tant que supérieur. Et donc peut-être qu'à un moment donné, il faut réussir, non pas donc comme je le disais en début de chronique, à adhérer à des mouvements, des espèces de grands élans de déclaratifs sur les réseaux sociaux.
On peut aussi, on estime que ça fait avancer le schmilblick, mais après
c'est pas c'est pas en exposant des images d'horreur qu'on changera notre façon de consommer. Et même si là, je ne propose pas tant de solutions que ça, c'est que finalement, à chacun d'essayer de regarder, ben voilà, d'où vient la viande que tu manges, les œufs, mais pas que, aussi la farine, tout, et d'acheter en fonction de tes moyens et de ta conscience, parce qu'on peut pas dire non plus à quelqu'un. Enfin, les conseils qu'on préconise dans ces cas-là, c'est toujours les mêmes, mais ça s'adapte aussi à une certaine tranche de population, alors qu'il est possible de faire attention, voilà, juste en se posant la question de d'où est-ce que ça vient. Ah bah ok, je sais que ça vient de là, ça veut dire que bon, est-ce que je peux pas m'en priver et faire autre chose? Non, oui, et après chacun fait avec ce qu'il peut. Mais voilà, il y a une, il y a autour de toute cette question de sauvons les animaux parce qu'on est trop des gens trop sympas, eh ben il y a aussi une grosse question de positionnement politique de en tant que dominant sur énorme, bah sur finalement tout ce qui est exploitable.
Ouais. Oui, en fait, il faut s'interroger sur tout. Oui, sur enfin la consommation de viande ne doit pas sortir des interrogations politiques en fait et du traitement animal, je veux dire. Et le traitement animal parce que ça va même au-delà. Enfin, je pense aussi au cirque. Ouais, où il y a plein d'animaux qui sont vraiment exploités, que c'est dégueulasse, et que, enfin, il y a plein de pays où les cirques avec animaux sont interdits. Bon, la France, on a un peu du mal avec ça, les combats de coqs, la tauromachie, tout ça.
Mais là où je rejoins Jonathan vachement, c'est sur le fait que pour moi, oui, l'être humain est aussi un animal. Donc c'est pareil, quand vous achetez votre tofu pour pas tuer d'animaux, regardez d'où il vient et comment il a été produit. Parce que s'il a été produit dans un pays sans droit démocratique, avec des travailleurs exploités, je trouve que finalement, bah, vous faites pas vraiment moins de mal à un animal, sauf que l'animal en question, c'est le travailleur. Vous voyez, donc si je reprends ta définition,
et c'est là que je
pense que l'interrogation, elle est vachement large, et c'est là que je disais, pour moi, ça rejoint une lutte contre un système global, parce que
c'est
ce système-là.
D'être conscient de ce qu'on est dans ce système, mais de pas forcément aller chercher le combat partout. Ouais. Enfin, en fait, ce combat vindicatif et dénonciateur partout, mais peut-être que des fois c'est dans le quotidien et juste dans notre façon de nous positionner au quotidien qu'on a des réponses.
C'est
et
vrai.
Voilà, c'était la minute philosophie. Pardon.
C'était bien comme conclusion à tout ça.
Et bébé, je t'aime. Bébé pour Brigitte Bardot.
Okay. Ah non, pas ici, pas Brigitte Bardot.
Elle a la droite, la madame, même si elle défend des animaux, quoi.
Voilà un exemple d'incohérence, par exemple.
Oui.
C'est-à-dire quelqu'un qui peut adorer les animaux et détester les humains. Pour
tout
moi, c'est
fait.
Pas cohérent du tout, en fait. Mais voilà.
Tout à fait. Et puis la façon dont elle adore les animaux, c'est un peu dominateur aussi. Enfin, les exploite pour les faire passer à la télé, dans des émissions.
Ah oui, après il y a toute une interrogation.
Voilà. C'est, ouais. Mais du coup, voilà, le paradoxe de sa situation me fait beaucoup rire.
Eh bien, on s'écoute de la zik ?
Bah oui.
Allons-y.
J'apprends très tôt dans nos bonnes écoles libres qu'il serait honte de vivre comme vivent les animaux. C'est pourtant sans tricher, sans intention vénale, que la gente animale grignote ou prend son pied. Nos amis les bêtes dont nous nous manquons, elles sont peut-être bêtes mais elles sont pas cons. Pour une saillie banale, jadis chez Madame Claude, avec une serviette chaude, ça coûtait 3000 balles. Or, par ces temps de crise, il y a encore dans la Creuse des chèvres toutes heureuses qui vous font ça gratis. Nos amis les bêtes dont nous nous manquons, elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Les vaches et les taureaux, sous des airs bucoliques, tringlent quand ça les pique devant Paris-Bordeaux. Pour de tels coups de rein, et sans la peur du drame, je connais au moins 10 femmes prêtes à sauter du train. Nos amis les bêtes dont nous nous manquons, elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Sur le bord de la route, la fourmi besogneuse se fait sauter joyeuse en charriant son casse-croûte. Essayez mes agneaux de faire ça à une louloute quand elle sort du mammouth en poussant son chariot. Nos amis les bêtes dont nous nous manquons, elles sont peut-être bêtes mais elles sont pas cons. les coqs généreusement assurent les urgences. Ils tiennent la cadence comme des moines au couvent. Les mouches sont les seules à niquer comme des folles sur le bord d'une casserole sans se casser la gueule. Nos amis les bêtes, nous nous moquons. Elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. L'écureuil à grands sauts tire son coup dans les chaînes, alors Tarzan lui-même finirait à l'hosto. Les lapins sont contents, ils baisent, ils font ripaille. Chez eux rien ne travaille que la bite et les dents. Nos amis les bêtes, nous nous moquons. Elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Nos amis les bêtes, nous nous moquons. Elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons.
Et c'était Pierre Perret avec sa chanson « Nos amis les bêtes » qui nous explique pourquoi, à un moment donné, il est temps de reconsidérer notre positionnement politique vis-à-vis de l'éthique et des animaux. Voilà.
Et du sexe, hein, surtout, parce que là, c'est une chanson de cul de Pierre Perret.
Oh là là, tu...
Donc, on est dans la causerie, on a le droit. Mais c'est quand même... ouais.
Et du coup, c'est Jean-Yves qui va nous parler...
Bonjour, c'est Jean-Yves.
Oui, c'est ça. Bonsoir.
Qui êtes-vous ?
Et oui, je voulais vous parler, enfin vous inviter à un petit tour du monde au pays des réactionnaires.
Oh, ça va être bien.
Ah ben ouais, c'est sympa parce que vraiment là en plus, ils sont super en forme en ce moment. Alors je vous propose, on va partir d'abord en Turquie pour une petite info qui est un petit peu plus de 2 semaines. Moi, j'ai pas vraiment eu le temps de vous en parler entre temps. Donc c'était le 17 novembre, hein, c'est le gouvernement turc, vous avez certainement entendu cette info, ou bah, sinon c'est le moment. C'est le gouvernement turc qui a soumis au Parlement une proposition de loi qui permet, dans certains cas, d'annuler la condamnation d'une personne pour agression sexuelle sur mineur si l'agresseur épouse sa victime. Évidemment, hein, ça a réagi quand même beaucoup. Si c'était adopté, il y aurait 3000 personnes qui seraient concernées. Alors, entre-temps, la mesure, on le sait, elle n'a pas été adoptée. Alors, l'idée, de ce que moi j'ai un peu compris, c'est que c'est pas, on n'y reviendra pas.
Non, elle est suspendue.
C'est juste, ils espèrent trouver un texte qui fasse le consensus. Voilà.
C'est ça d'être islamo-conservateur, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu peux imaginer qu'il y a un consensus sur les violences.
C'est ça.
C'est ça que ça veut dire. Hein.
Bah, c'est,
violences sexuelles, en l'occurrence.
C'est ça. Donc, pour quand même essayer de... Je vous resitue un peu tout ça. Hein. C'est le Premier ministre Bin Ali Yildirim qui a dit « Il y en a qui se marient avant d'avoir atteint l'âge légal, qui est de 17 ans, avec autorisation des parents, et des fois même 16. Ils connaissent pas la loi, les gens qui se marient avant l'âge légal. Et donc, bah, y a des enfants, le père, il va en prison, et les enfants, ils restent seuls avec leur mère. Bon, voilà. Il a rajouté aussi que bon, bah, les mariages précoces sont malheureusement une réalité. Ça, je suis d'accord avec lui. C'est un fait, on peut pas le nier. Et donc, lui... Enfin, et comme dit, il pense que la mesure vise au contraire à protéger les enfants. Et donc, le ministre de la Justice, lui, il a dit que M. Bozdag a souligné que la mesure ne s'appliquerait que dans les cas où l'agression sexuelle a été commise sans force, menace ou toute autre forme de contrainte. Agression sexuelle, donc sans contrainte.
Il a une définition de l'agression que je trouve magnifique.
Oui, c'est-à-dire qu'il est possible de constater des agressions sexuelles sans violence.
Mais donc consentie.
Et
c'est ce qui sous-entend.
C'est
magnifique.
C'est ça. Donc voilà.
En même temps, moi, je me dis si la victime, elle abandonne tout espoir de lutte.
Ah mais oui, mais ce qui veut dire que...
À 12 ans, tu l'abandonnes vite. Hein.
Voilà, le truc donc finalement, c'est facile.
Ah bah oui.
Enfin, là, c'est bon, c'est...
Ah mais oui, bah, de toute façon, on n'a jamais dit qu'il faisait compliqué. Hein.
Non, mais je veux dire, enfin voilà, c'est assez surprenant parce que c'est même plus la peine... De... Enfin, en effet, c'est plus la peine de parler d'agression, il n'y a plus... Enfin...
Ah mais oui, bah, si tu changes de texte, il fait sans sorte...
Ça nie totalement tout ce qui se
Ah bah oui.
Oui, c'est ça, c'est le but, c'est d'effacer les agressions.
C'est ça, on efface les agressions.
Et de passer finalement le mariage à 12 ans.
Voilà. Donc, alors, une autre info, hein, ça c'est toujours en Turquie, une autre petite info, c'est déjà toujours un peu autour de ça, c'est en juillet, la Cour constitutionnelle turque, en fait, elle s'était déjà prononcée en faveur du retrait d'une disposition du code pénal qui caractérise tout acte sexuel avec un enfant de moins de 15 ans comme un abus sexuel. Voilà. Je vous propose de continuer notre voyage autour
des... pays des réacs.
Au pays des réacs. Ah bah là, on y est. Hein. On va aux États-Unis, plus précisément dans l'État du Texas, qui, alors pour resituer un petit peu, alors après que les propositions de l'État du Texas pour rendre des procédures d'avortement de plus en plus complexes et onéreuses avaient été rejetées par la Cour suprême en juin dernier. Alors logiquement, si je ne me trompe pas, c'était ce qui instaurait l'obligation des centres IVG d'avoir des blocs chirurgicaux avec médecins, anesthésistes, etc. Enfin un truc...
Ce qui n'est pas utile pour pratiquer un IVG.
Voilà. Et donc, ils se sont fait avoir là-dessus. Et donc, voilà que des législateurs texans ont fait discrètement une nouvelle petite proposition de loi forçant les femmes ayant recours à un IVG ou faisant une fausse couche en dehors de chez elles à payer des funérailles à l'embryon. Voilà. Alors, on a une journaliste du Texas Tribune qui explique que malgré les protestations intenses de la communauté médicale et des défenseurs des droits en matière de procréation, l'État interdira aux hôpitaux, aux cliniques qui procèdent aux avortements et autres établissements de soins de se débarrasser des restes fœtaux dans les décharges sanitaires en autorisant seulement la crémation ou l'inhumation des restes.
Hein ? Alors, big up à Aurélien, je vais lui piquer sa blague. Oui. Est-ce que quand je me masturbe, il faut que je fasse un cercueil par spermatozoïde ou est-ce que je peux faire une fosse commune ? Voilà.
Ah bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, dans l'inspiration,
on en est là,
toutes ces choses-là, c'est l'onanisme, c'est mal. C'est mal, c'est péché. Donc, cette règle, elle est surtout et particulièrement dangereuse parce que, ben, elle incite aussi les personnes à avoir recours à des procédures illégales directement chez elle. Enfin, c'est toujours la précarisation de l'avortement, quoi. Enfin, on en revient des techniques passées. Donc voilà. D'autant qu'un article montrait qu'au Texas, effectivement, le nombre d'avortements faits maison grimpe depuis plusieurs mois. Et ce qui est dit aussi, c'est que bah, si aucune procédure judiciaire est engagée, en fait, cette loi va rentrer en vigueur avant même la fin de l'année 2017. Hein, il ne reste pas très longtemps. Alors évidemment, hein, aux États-Unis, comme en France et comme dans tous les plein de pays, en fait, dans tous les pays, j'ai envie de dire, on a toujours les pro-vie, vous savez, ceux qui aiment à descendre des médecins qui pratiquent l'avortement, qui effraient des femmes qui veulent pratiquer l'avortement.
C'est souvent des bons croyants.
D'accord. Oh, bah, c'est souvent à l'Alliance. Hein. Donc, on a Joe Pojman, hein, directeur exécutif du Texas Alliance for Life et grand partisan de la loi anti-avortement, qui déclare « Je ne vois pas à un moment donné où l'avortement n'est pas facile au Texas ». Et il dit « Notre but est de protéger la vie humaine innocente de la conception jusqu'à la mort naturelle ». Retenez bien tous ces mots, hein, mort naturelle. Hein. Donc la mort assistée, etc., c'est foutu. En utilisant des moyens pacifiques et légaux, évidemment, et en promouvant des alternatives compatissantes à l'avortement. Donc voilà, enfin, ce qui veut dire que même quand un embryon qu'on ne voit pas, on va devoir payer des obsèques pour tout ça. Et donc c'est encore une fois une belle manière de culpabiliser les femmes qui ont accès, en tout cas qui ont recours, pardon, à l'avortement et rajouter là aussi des frais supplémentaires parce que les États-Unis, comme c'était longtemps le cas en France, l'avortement n'est pas gratuit. C'est entre 300 $ et 1 000 $. Donc voilà, la situation est magnifique. Et des États-Unis, je vous propose de partir en Inde. On voyage à fond, hein.
Ouais.
Ah, il n'y a pas de limite pour le patriarcat.
C'est plein de religions différentes.
Ah, mais pas de jaloux, pas de jaloux. Elles oppriment toutes. Alors, en Inde, on a déjà un gouvernement, hein, BJP, qui est un gouvernement de droite nationaliste hindoue. Déjà, ça aspire, on se dit, ouh, le progrès derrière. Alors, donc en Inde, il y a plus de 36 000 femmes qui sont victimes de viols chaque année. Hein. Et on a Maneka Gandhi, ministre indienne des femmes, déjà je trouve que des femmes, a tout simplement minimisé la gravité de ces affaires, qui selon elle, la faute revient aux médias qui exagèrent évidemment les faits qu'il y a en Inde sur les viols. Donc elle est sans appel, hein, pour elle, tout ça c'est pas aussi important que ce qui paraît... voilà, enfin, c'est juste que dans d'autres pays, on le traite différemment et que ce qui fait que ça fait des gros titres, alors que bon, ben, nous, en Inde, c'est vachement plus simple et il y en a
on
moins.
On s'en fout, quoi.
Ouais, enfin, il y en a vachement moins. Et donc, quelqu'un qui répond, en fait, c'est qu'elle a une vision plus que biaisée, puisque, comme l'a expliqué une publication britannique, en Suède, la punition des délits, parce qu'elle prenait l'exemple de la Suède, en fait, cette ministre, en disant là-bas, on en parle beaucoup, etc., ça fait les gros titres. Et elle dit en fait c'est que c'est déjà traité différemment. C'est-à-dire qu'en Suède, si vous commettez 5 agressions, 5 viols, vous êtes 5 fois jugé. En Inde, si vous vous agressez et violez 10 fois, vous avez un jugement.
Voilà. Ouais, c'est pas du tout le même rapport.
Ah bah non, c'est pas du tout le même rapport, quoi. Donc voilà, donc il y a des journalistes qui ont réagi en disant mais en fait, enfin, faudrait qu'elle arrête de minimiser les choses. Moi, dans mon coin, parce que voilà, dans les différentes régions d'Inde, il y en a une qui dit mais enfin, le viol, on sait que ça existe, il y en a plein et que. Que encore une fois qu'une ministre des femmes vienne dire que le viol, enfin, qui vient minimiser le viol, encore une fois un truc bien dégueulasse.
Elle fait partie de la famille de Gandhi, c'est.
Oui.
Oui, c'est donc la fameuse mafia familiale qui garde le pouvoir en Inde depuis des années, quoi, en fait.
Ah bon?
Ouais.
Non. Si. Mais non, les Gandhi, moi, je croyais que c'était comme Fidel Castro, un mec super bien.
Non, pas vraiment.
Ah. On se fait avoir par tous ces sauveurs qu'on croit. Donc voilà, donc ça pue en Inde et puis enfin ça rappelle enfin c'est un truc que j'ai eu dans un journal, c'est bah les propos de Manika Gandhi hein, font écho aux propos de plusieurs membres du gouvernement dont un qui était le ministre enfin qui est le ministre des Finances en 2014 qui avait déclaré que le viol collectif qui a eu lieu à Delhi était un petit incident. Hein, c'est pas grand chose. Donc voilà.
Patriarcat, alors, religion, tout mélangé, ça fait bien.
C'est toujours un truc qui s'accompagne.
Parce que c'est un parti religieux, il faut le rappeler.
Oui, nationaliste hindou. Oui. Alors de l'Inde, je vous propose de partir en Algérie. Hein, vous me dites si le temps. Oups, il faut que je m'active un peu. En Algérie, on a une ministre qui demande aux femmes mariées de reverser leur salaire à l'État. C'est pas génial ça? C'est Mounia Meslem qui est ministre donc algérienne de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine qui propose à certaines de ses compatriotes de sexe féminin de céder leur salaire au trésor public. Elle déclare « Nous les femmes cadres avons des maris qui subviennent à nos besoins. Nous pouvons aider notre pays qui a assuré notre éducation et nous a donné la chance de faire carrière.
C'est merveilleux.
Lui céder la totalité de nos salaires sera la moindre des choses. » Donc si vous n'êtes pas soumis à votre mari, en tout cas, soyez soumis à votre état. Et si vous pouvez être soumis à votre mari pour l'état, ça passe aussi. Enfin bon, voilà.
Elle va redonner son salaire à l'état.
Mais justement, c'est ce que certains disent, c'est que alors c'est d'autant plus dégoûtant que elle est avocate, etc. Et que enfin, je veux dire,
elle est ministre, donc elle est payée par les deniers d'état.
Je vais demander, je vais essayer de lui envoyer un mail, lui dire « Et vous, madame la ministre, est-ce que vous allez donner ?» Donc voilà, enfin, c'est toujours hallucinant, hein, cette merde. Et je vous propose de finir notre tour du monde par la France. Vous avez entendu ce...
T'as le temps, hein, vas-y.
Ouais, vous avez entendu ce débat qu'il y a eu autour de l'extension du délit d'entrave à l'IVG aux propos tenus sur Internet. Vous avez peut-être entendu parler. Donc le texte, il a été élu, le texte a été voté à main levée après 5h30 d'âpres débats et quelques retouches, avec le soutien de la gauche et une majorité de centristes et évidemment, j'ai envie de dire, l'opposition de la droite. Pour rappel quand même, le texte qui a été adopté, en fait, il étend le délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse, qui existait depuis 93, à la sphère numérique.
Peut-être rappeler
justement
ce que c'était.
Alors, ce qui va être ajouté, c'est que quand il est mené par tout moyen, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne des allégations, indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse. Alors c'est très très long tout ça.
Il faut se souvenir que le délit d'entrave au départ, pour ceux qui se rappellent pas, c'est des gens qui s'enchaînaient dans les centres IVG ou dans les hôpitaux en France. D'ailleurs à l'époque il y avait une certaine Christine Boutin qui était un peu à la tête de ces gens-là déjà à l'époque. Donc en fait ça avait été mis en place pour dire que comme c'était une atteinte au droit en fait fondamental de disposer de son corps, il y avait une peine prévue pour les personnes qui spécifiquement faisaient ces actions-là. Parce que jusque-là c'était juste un trouble à l'ordre public, et donc ça crée un délit, un délit d'entrave qui a été là, et là qui est élargi du coup.
C'est ça. Et donc, alors, clairement, sont visés certains sites, en fait, qui sont tenus par des associations catholiques. Ouh là là, je suis pas catophobe, hein, vous avez vu, il y en a pour tout le monde, donc voilà.
Ne m'écrivez pas.
Ne m'écrivez surtout pas. Donc voilà, donc évidemment, il y a plein de gens qui disent à droite que mais non, enfin tout ça, c'est pas un problème. En fait, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, en fait, elle est contre la liberté d'expression. En fait, elle-même, elle l'a rappelé, elle a dit en fait, vous avez le droit en fait de pas être pour l'IVG. C'est un droit, la liberté de penser, d'opinion. Par contre, dire aux gens, en les invitant sur un site, sous couvert de faire de la
prévention,
être en fait, c'est un cheval de Troie, en fait, des provis. C'est-à-dire que sous couvert de vous donner des infos, en fait, elles vont vous pousser à ne pas avorter, en fait. Donc, juste vite fait, je vais essayer de vous relater quand même vite fait, parce qu'il y a une journaliste qui a appelé, en fait, un site, enfin, qui a appelé une ligne. Elle disait, avant de parler de la loi concernant le délit d'entrave, faites le test. Elle dit, et faites-le, je vous invite vraiment à le faire. Vous tapez IVG sur votre moteur de recherche, et vous tombez en premier sur un site ivg.net, je vais vous le dire. Et en fait, vous pouvez appeler le numéro vert. Ce numéro, en fait, ce site est tenu par l'extrême droite catholique,
les anti-IVG, qui se font appeler provis.
Voilà, c'est ça. Donc elle l'a fait, en fait, hein, et après 18 minutes de conversation, elle se présente en disant qu'elle est enceinte et qu'elle aimerait avoir des infos, en fait, parce qu'elle veut pas garder l'enfant. Elle le sait, elle veut pas garder l'enfant, elle le dit. Donc elle a eu le droit, vous savez que toutes les femmes ne peuvent pas avoir recours à l'IVG, les couples ne se remettent pas d'une IVG, l'IVG augmente les risques d'infertilité. Avez-vous pensé aux conséquences psychologiques et biologiques de l'IVG?
Hein, tout est faux. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, elle le dit, hein, elle a dû dire 10 fois dans la conversation que sa décision était prise, qu'elle souhaitait pas avoir cet enfant et qu'elle avait besoin d'informations pour avoir accès à un centre d'IVG, quoi. Et en fait, on lui a pas donné, on lui a dit de contacter son médecin traitant en lui demandant 3 fois son numéro de téléphone, quand même, hein, parce que ces gens-là veulent rester au courant, ils se font du souci pour vous, évidemment. Donc voilà, être contre l'IVG est une opinion qui est protégée par la liberté d'expression. Entraver volontairement le droit à l'information sur des femmes est une atteinte à leurs droits, en fait.
La liberté d'expression, c'est pas la liberté de mentir. C'est pas la même chose.
C'est exactement ça.
D'ailleurs, je voudrais juste souligner que la Quadrature du Net, qui d'habitude dit pas de conneries, bah là, a dit une énormité, et je pense qu'à force de prendre la grosse tête et de se mêler de tout, il ferait bien d'un petit peu regarder ce que ça engendre, de dire qu'il faut, ce serait bien de pouvoir dire aux femmes de ne pas avorter, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Hein.
Mais c'est exactement voilà. Ça, c'est exactement ça. Il y a eu d'autres réactions, hein. Alors, on a eu le droit évidemment à la droite, on a eu le droit aussi à... Et François Hollande, il a reçu un petit courrier de qui ? Le président de la conférence des évêques de France, en disant attention quand même, le moindre encouragement à garder son enfant peut-il être qualifié sans outrance de pression psychologique et morale ? Enfin bon, évidemment, ils sont contre tout ça. Voilà, il y a encore d'autres trucs. Alors, pour finir juste quand même sur l'IVG, le seul numéro et les seules choses que je vous conseille de consulter, c'est le site internet du planning familial. Il y a aussi une ligne verte qui a été mise en place qui s'appelle Sexualité, Contraception et IVG, qui est fait par l'État, mais qui est, on va dire, géré par le planning familial. C'est au 0800 08 11 11.
On mettra le numéro
sur le blog. On le mettra, évidemment. Et vite fait, mais je vais pas faire très long, c'est
l'inter... voyage.
Ouais, non, on est toujours en France. Hein. En France aussi, les réactionnaires sont en forme. C'est l'association proche des cathos traditionnalistes Promouvoir qui ont annoncé avoir déposé ce jeudi un recours pour demander la suspension du visa d'exploitation pour le film d'animation Sausage Party, qui est un dessin animé interdit au moins de 12 ans et dans lequel il y aurait des propos complètement incroyables. De la vulgarité et une partouze de fruits et légumes et d'aliments, ce qui est quand même hyper dégueulasse, vous imaginez bien, pour ces gâteaux traditionnalistes.
Surtout que c'est un dessin animé pour adultes. Il faudrait leur dire et leur expliquer que ça existe aussi.
Ouais, je crois qu'ils y arriveront pas. Hein.
C'est pas parce que c'est des dessins animés que c'est que pour les enfants.
Ben voilà, enfin bon, donc ils veulent évidemment interdire. Promouvoir, c'est aussi ceux qui ont lutté contre la vie d'Adèle, c'est aussi. Voilà, leur credo, c'est la censure et l'ordre moral. Et ils se réveillent depuis longtemps, et nous, on attend. Donc voilà, je pourrais aussi vous parler de Béziers, où le maire a, pour dénoncer une campagne de prévention de l'IVG, du sida, pardon, bah il a préféré des affiches promettant, et en tout cas promouvant, la fidélité comme arme.
Et drôle.
C'est voilà. Donc l'ordre moral continue. Enfin,
Robert Ménard, alias Robert Minable. Quoi.
C'est ça. Donc voilà, enfin, je pourrais continuer. Il y en a encore. Pardon,
tu veux. Ouais, je trouve que dans tous les exemples que tu as cités, finalement, les réactionnaires, ils réagissent beaucoup contre les femmes.
Toujours.
Toujours.
C'est leur premier credo.
C'est leur première cible, ce seront toujours les femmes, évidemment. Parce que c'est.
Mais d'ailleurs, il y en a même qui ont fait un voyage là, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qui sont
c'est ce que je voulais dire,
c'est
que je pourrais vous en parler vraiment des heures, parce que c'est là, les réactionnaires, c'est plus un réveil, c'est un sursaut, j'ai envie de dire, des réactionnaires. À nous, en fait, aussi, de nous interroger sur qu'est-ce qu'on promeut.
Oui.
Il n'y a plus de réponse. Ils sont en train de nous amener leur religion de partout.
Et leur ordre moral surtout.
L'ordre moral, c'est ça qui est dingue. Donc le patriarcat, l'ordre moral se porte bien. Et moi, je vous demande comment et quand est-ce qu'on va commencer à leur répondre. Pas par des actes violents, hein, mais juste à un moment donné, il va falloir qu'on.
Quoi qu'une bonne paire de baffes à Robert Ménard, moi je suis pas contre.
Effectivement. Donc voilà. Eh bien, je vous propose d'écouter un titre.
Bah oui.
Allez.
Sample. 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 S
êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22 à 23h. On vient de s'écouter le groupe Frivolous avec le titre One Final Solstice. Et je voulais juste rajouter, parce que c'est Fab qui m'a fait la remarque, toutes les infos que je vous ai données autour des réactionnaires religieux en forme, ça s'étale sur 2-3 semaines, quoi. C'est pas genre, c'est pas une compile de l'année, quoi.
Malheureusement.
Voilà. Et bien, bah justement, Fab, je crois que ça continue un peu dans la même lignée. Ouais. Tu me diras, tu veux nous causer de prévention et pas que de prévention,
ouais,
autour des IST.
Et voilà, en ce moment, il y a un grand truc dans les médias, mais comme toujours autour du 1er décembre, parce que je vous rappelle que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH, par contre le SIDA. Donc forcément c'est un peu le marronnier, chaque année on nous sort des articles sur les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Mais ce qui moi m'a un peu emmerdé et choqué, c'est la façon dont on le sort, parce qu'en fait finalement je trouve qu'en fait on traite pas toutes les maladies de la même façon, et les IST sont traités de façon assez particulière dans les médias. Je vais m'expliquer. D'abord, vous avez vu, bah, comme tu le soulignais Jean-Yves, il y a une campagne d'affichage à destination des hommes qui couchent avec des hommes, voilà, parce que c'est très, très ciblé. Alors c'est une bonne chose, parce que c'est basé sur l'idée qu'il y a un chiffre qui est sorti, que sur les 6000 contaminations connues du VIH, 3000 à peu près concernent des hommes qui couchent avec des hommes. Donc forcément, on a fait une campagne d'affichage. Le vrai problème de tout ça, c'est quid des 50% qui restent, c'est-à-dire,
oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est-à-dire les gens qui sont pas des hommes qui couchent avec les hommes, donc a priori des hétérosexuels ou des consommateurs de drogue. Et là, on ne fait pas de campagne spécifique, alors qu'on aurait pu faire une campagne large qui ciblait, oui, aussi bien les pratiques homosexuelles, enfin de type homosexuel, et les pratiques de type hétérosexuel et les usagers de drogue.
Ouais, faire une campagne qui englobe tout ça, campagne, quoi, en fait.
Voilà. Sauf que non, parce qu'en fait, encore une fois, on est sur cette espèce de truc qui entoure encore beaucoup la sexualité, qui est une sorte de gang un peu morale, qui est entre la culpabilité et la vision de la sexualité comme étant quelque chose de normalement uniquement fait pour procréer et pas pour prendre du plaisir. Et en fait, c'est ça la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a hérité de cette morale judéo-chrétienne en France très marquée, qui fait que dès qu'on parle de sexualité et dès qu'on parle des IST, on en parle de façon négative. C'est-à-dire que je vais reprendre un exemple que j'avais donné à la prépa. J'ai jamais vu de campagne de prévention qui dit « Hey, toi là qui as pris une gastro, c'est parce que tu t'es mal lavé les mains et que tu es sale ». Vous avez jamais vu ça, en fait. Bah, si vous lisez un petit peu les campagnes de prévention autour des IST, le ton, c'est celui-là, en fait. C'est, hey, toi, si t'as chopé une saloperie, c'est un peu de ta faute parce que tu t'es mal protégé. C'est un peu couillon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les IST, elles font partie des maladies qu'on peut attraper dans la vie. Voilà, elles font comme la grippe, comme la gastro, comme la rougeole, comme les oreillons, enfin, comme tout ce qui s'attrape. Les IST, ça peut s'attraper. Alors oui, il y a des moyens de prévention, et moi, je suis pas là pour dire qu'il faut pas se protéger. Chacun doit être maître, justement, de sa sexualité et de la protection de son corps. Mais pour être maître de ça, encore faut-il qu'on arrête de culpabiliser. Parce que j'ai donné un exemple concret, c'est celui de la syphilis. Oui, on a une augmentation aujourd'hui de la syphilis parce que oui, de plus en plus, enfin de moins en moins de monde justement utilise le préservatif. Donc la syphilis a tendance à se transmettre plus facilement quand on n'utilise pas de moyens de protection. Par contre, la syphilis peut aussi se transmettre quand on utilise un moyen de protection, parce que la syphilis n'est pas spécifique au sexe, c'est-à-dire que c'est pas spécifique au pénis, vous voyez, ni au vagin. Donc en fait, ça peut se transmettre par d'autres biais dans les jeux érotiques qu'on peut avoir. Bon. Le souci, c'est la façon dont on traite la syphilis, parce qu'elle se traite médicalement. Ça se soigne, la syphilis. Et si c'est pris à temps, d'ailleurs, c'est sans grand danger. C'est-à-dire que justement, c'est qu'on a maintenant l'arsenal médical qui permet de s'en sortir sans trop de danger. Le problème, c'est que comme on en a fait une maladie honteuse, parce qu'on dit aux gens, oh, vous devriez pas avoir des IST si vous étiez bien protégé, si vous étiez pas trop trop con, hein, parce que c'est un peu comme ça qu'on fait la prévention aujourd'hui. Et ben, en fait, les gens, ils osent pas aller voir leur médecin. Ils voient arriver les petits trucs cutanés qui apparaissent, ils voient la gêne, les problématiques qu'ils ont, mais au lieu de faire de la prévention logique, c'est-à-dire de dire les symptômes des maladies, et donc quand vous avez ces symptômes-là, c'est pas dramatique, allez voir votre médecin. Non, on dit, attention, c'est mal, tu as chopé une saloperie, et ça c'est parce que, tu vois, t'as fait du sexe pour ton plaisir, et ça c'est pas bien. Et donc en fait, du coup, on est dans cette espèce de logique-là, qui est une logique purement morale, et qui est problématique, parce qu'en fait, elle est contre-productive en termes de prévention. Parce qu'une bonne prévention, c'est aussi que quand les gens se savent atteints de quelque chose, ils aillent voir un médecin, ils se fassent dépister et ils se fassent soigner en conséquence de la chose dont ils sont atteints, pour ne pas eux-mêmes aller donner cette maladie à une autre personne. Vous voyez, c'est le problème de la transmission domino. Hein.
Voire même sans savoir, que ce soit pas honteux de dire bah, « je vais me faire dépister parce oui. que j'ai une vie sexuelle active et que j'ai besoin de me tenir au courant de comment je vais ».
Tout à fait. Et c'est justement là où je voulais en venir, c'est qu'il y a cet aspect donc, de morale et de montrage de droit. Et puis il y a le deuxième aspect, c'est les moyens. C'est-à-dire que plus ça va, et moins il y a de centres de dépistage. Et donc c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'on fait une grande... On fait une grande campagne de prévention, mais on ne met plus de moyens en face. Or, il faut impérativement aujourd'hui, et clairement, que les autotests pour le VIH soient accessibles facilement, que les prises de sang pour pouvoir connaître les IST, sa sérologie sur les IST en général, soient remboursées à 100% et soient anonymes et gratuites de façon facile dans tous les laboratoires et pas uniquement dans les centres de dépistage, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, vous voyez, en fait, il y a des tas de trucs qu'on pourrait mettre en place pour dédramatiser les choses et permettre aux gens d'avoir accès au contrôle de leur vie, qu'on ne met pas en place parce qu'on est dans la morale et dans le fait de montrer du doigt. Pardon. Excusez-moi, je tousse. Et donc voilà. Non mais tout ça pour dire que cette problématique de prévention, cette façon de faire de la prévention, c'est un petit peu comme avec les drogues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en France, on a une sale manie, c'est-à-dire que tout ce qui est, entre guillemets, en dehors de la bonne morale, il faut le culpabiliser. Alors, c'est juste ridicule parce que ça ne marche pas. Je veux dire, on le sait que ça marche pas. On le voit sur tous les aspects où on a fait ça, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment donné, voilà. Alors, c'est pour reprendre une phrase d'une membre de AIDS qui disait, le problème de l'État aujourd'hui, c'est qu'on peut pas mettre de radar dans tous les lieux de baise. C'est-à-dire que, il pense, l'État, aujourd'hui, qu'en fait, c'est comme pour la prévention routière. C'est-à-dire, vous faites des messages un petit peu culpabilisateurs et puis vous allez mettre un gendarme. Mais on met pas un gendarme pour la baise, je veux dire, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, l'aspect gendarme n'existe pas. Il faut donc au contraire que les gens puissent se réapproprier leur vie et qu'on refasse de la prévention comme ça pouvait se faire dans le passé, notamment dans les années noires du sida, où on a, et notamment grâce à ACT UP et à d'autres associations, où on a réussi à reprendre en main, c'est-à-dire à donner aux gens la possibilité de comprendre ce qu'étaient les maladies en face desquelles ils se trouvaient. Parce que là, en fait, dire juste le sida c'est mal, oui, c'est évident. Par contre, expliquer ce qu'est le sida, ce que ça peut entraîner, rappeler aussi qu'aujourd'hui, c'est pas les séropositifs connus qui transmettent le sida, parce qu'en réalité, une personne qui est traitée par trithérapie ne peut plus aujourd'hui transmettre, parce qu'en fait, elle a un taux tellement faible que ça, il n'y a pas de transmission. Et ça, on le dit pas, par exemple. Et dans le même temps, on dit, faut pas être sérophobe. C'est le nouveau mot là, que j'aime pas du tout, d'ailleurs. Enfin, en fait, faut pas être haineux envers les séropositif. Et le problème, il est là, c'est que ça marche pas, parce que comme on n'explique pas aux gens qu'aujourd'hui on a fait des avancées, et que ça veut pas dire qu'il faut pas se protéger, parce que c'est ça le truc qui est débile, c'est les gens disent « Ah, mais si on dit ça, les gens vont plus mettre de capote ». Mais non, pourquoi? Personne n'a envie de prendre une trithérapie toute sa vie. C'est, je veux dire, enfin, si on explique justement ce qu'est une trithérapie, comment ça fonctionne, comment justement les impacts que ça peut avoir sur la vie, mais que oui, ça peut effectivement te sauver la vie au sens où tu vas pouvoir vivre plus longtemps, il y a un moment donné, c'est juste reprendre en main les choses plutôt que d'être encore une fois, dans le fait de montrer du doigt et de laisser entendre des choses qui sont fausses. Oui, vas-y.
Mais en fait, on est toujours dans cette logique de peur.
C'est-à-dire,
c'est par la peur qu'on éduque. Alors, je mets tout ça entre guillemets, mais oui. ça fait vraiment slogan. C'est-à-dire que c'est par la peur qu'on vous éduquera.
Mais c'est débile.
Sauf qu'en fait, sauf si tu veux, encore une fois, toujours des gens qui soient... qui attendent leur gentil papa état, effectivement.
Oui. Non, mais surtout, c'est contre-productif.
Mais je veux dire, les gens, ils ne peuvent que s'approprier les choses. Je pense quand tu t'appuies sur leur capacité de compréhension, sur leur capacité de connaissance, sur leur capacité d'intelligence, de cerveau, quoi.
Et quand tu prends l'exemple du papa état, c'est parfait, parce qu'en fait, en réalité, il y a tout un tas de sociologues qui disent aujourd'hui que le relapse qu'on voit en ce moment, c'est les gens qui ne mettent plus de préservatif, vient d'abord et avant tout du fait d'une génération qui est saoulée, c'est-à-dire qui en a marre d'avoir des messages culpabilisateurs sur la sexualité, au lieu d'avoir des messages cool. Donc moi, en fait, l'idée, c'est de dire libérons les sexualités. Parlons-en honnêtement, sans faire un drame. Mettons les choses sur la table et vous allez voir que ça va vachement mieux se passer. Je rappellerai juste comme ça que les taux de contamination les plus faibles qui ont été constatés en Europe sont dans les pays où justement l'éducation sexuelle commence le plus tôt. Et où on fait de la sexualité sans en faire un drame. C'est le cas notamment de la Norvège et de la Finlande, qui ont des programmes excellents, voilà, qui passent à la télé même d'ailleurs, et où franchement il y a une dédramatisation, et il y a surtout la notion de baiser, c'est quand même pour se faire plaisir au départ, avant toute autre chose. Voilà, et c'est déjà, si on part de ce principe-là, ben en général ça marche mieux après pour dire bah oui, je veux me faire plaisir, mais je vais me faire plaisir sans mettre en danger mon partenaire ou ma partenaire, et sans me mettre en danger moi, en ayant un dialogue serein et sans que ce soit grave, quoi.
C'est ça, c'est laisser l'information sans avoir un regard de jugement.
C'est ça.
Sur les pratiques des uns, des autres, ouais. Ou sur ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Parce qu'il y a ça aussi, je pense que dans l'information, enfin, dans l'information qu'on dispense aux adolescents et même plus tard aux adultes, il y a plein de choses qu'on ne dit pas parce qu'on part du principe que ça ne se fait pas, ou très peu.
Oui, mais on s'en
fout. Et que ça correspond pas à la norme. Mmh. Mais oui, mais justement, c'est ça.
Ça existe, ça existe.
Je pense que c'est ça, c'est qu'en Norvège, ils doivent se dire ça existe, bon, on en discute.
Bah oui, et c'est, en fait, c'est toute la problématique, c'est... par exemple, je vais prendre un exemple pour vous dire des choses qui ne se font pas, blablabla. Je lisais un article d'un médecin qui parlait des chlamydia. Et il disait, donc les chlamydia, ça se transmet. Alors c'est pareil, les chlamydia, ça se soigne très bien. Alors, il suffit d'une prise de, voilà, l'antibiotique. Mais ça peut se transmettre dans une séance d'uro. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, dans une séance d'uro, attraper des chlamydia. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Simplement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça et qui ne le savent pas. Et parce que on n'en parle pas, parce qu'on fait pas de prévention autour, puis qu'on dit pas, bah tiens, un des modes de transmission, ça peut être ça. Alors que c'est pas dramatique, que finalement, si les gens aiment l'euro, c'est leur problème, et que je vois pas où, pourquoi l'État viendrait foutre son nez là-dedans, et encore moins les religions.
Et qu'encore une fois, c'est pas l'idée de faire peur. Non, attention, ne faites pas de séances d'euro.
Non, ça peut arriver.
Si vous faites des séances d'euro, il y a des potentialités.
Voilà.
Donc, sachez-le, ça veut juste dire que si, admettons, tu te rends compte de certaines choses, ça te permet d'aller peut-être plus rapidement voir un doc,
c'est ça.
De plus rapidement agir sur ce que tu aurais pu choper.
Et ça permet aussi que tu préviennes tes partenaires que tu as eus, que du coup tu fais une vraie prévention.
C'est pouvoir agir, voilà. faire ce qu'on veut, mais en conscience.
Et dédramatiser un max. Moi je suis sur le mot, il faut dédramatiser, ce n'est que du plaisir, la sexualité.
Mais je crois que là, ça revient à l'encontre de la pensée qui a façonné quand même certaines sociétés, judéo et
toutes les sociétés
en fait.
La sexualité dans toutes les sociétés,
c'est
presque, c'est tabou.
C'est tabou, c'est que c'est la reproduction de l'espèce, etc. Enfin, tu vois, c'est faire des trucs de Dieu, enfin tout ça. Ce qui fait que, en fait, de toute façon, à partir du moment où on aura déjà, enfin, on peut toujours commencer maintenant. Hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est. En fait, je pense qu'encore une fois, c'est plus large. C'est-à-dire que c'est pas juste, il faut qu'on prenne le plaisir. Non, en fait, il faut qu'on aille contre ceux qui, encore une fois, viennent nous dire que baiser, c'est mal et que baiser, c'est pour procréer, quoi.
Si je peux donner juste, parce que je voulais finir ma chronique là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est en fait, voyons dans la sexualité la même chose qu'on voit dans le vin. Le vin qu'on boit. C'est-à-dire que le vin, c'est un truc de plaisir. Or, on a appris aux gens à boire avec modération, à faire attention, à choisir et à prendre en compte ce qu'ils font. Faisons pareil. Ouais, ça va bien marcher. Voilà, c'était juste mon petit truc autour de tout ça, parce que je trouvais que c'était agaçant, cette espèce de mise au banc de la société, de toute personne qui prend une IST, ça me gonfle.
Ouais. Alors, vu qu'on est un petit peu à nouveau un peu à la bourre, comme souvent ces derniers temps, on vous propose vite fait, c'est qu'on va juste passer une petite brève avant de terminer avec le titre. La brève qu'il y a cette semaine, c'est un peu comme toutes les semaines, c'est la permanence juridique de soutien aux sans-papiers qui a lieu à la Lutine, qui est toujours dans le 7e arrondissement de Lyon, et c'est toujours tous les lundis de 18h30 à 20h. Il y a encore plein d'autres choses, regardez, dans vos lieux habituels, etc. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des expos aussi à voir, enfin voilà.
Et si vous voulez venir rue Sergent Blandon, juste à côté de Radio Canu, il y a un nouveau lieu associatif qui vient d'ouvrir qui s'appelle La Méduse, et qui est plutôt sympa, et qui propose des petites soirées cool.
Donc c'est venez, ça,
des cabarets, des trucs de troc, enfin, ça a l'air d'être tout foufou comme lieu, donc viens des voir. Voilà.
C'est ça. Et
il y a un autre truc.
Vas-y.
Le 18, Georges qui sera là. Et l'émission astronomique, la suite des grands de femmes et hommes de l'astronomie. Donc, si vous avez des questions, lacauserie@gmail.com, comme ça on lui transmettra. Voilà.
Superbe. Eh bien, on va se quitter avec un titre. Et c'est toi qui rappelle qu'est-ce qu'on écoute.
Parce que tu n'arrives pas à le lire.
Non, c'est pas ça.
Alors, pour se quitter, nous allons nous quitter avec un violoncelliste qui s'appelle Max Lilia et qui nous fait une révélation. C'est le titre de son, c'est le titre du titre. C'est un peu con ce que je viens de dire. Et pour ceux qui connaissent pas, puisque je vais le caser, c'est le violoncelliste de Tarja Turunen et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà.
Big up à Laurent, c'est ça aussi.
Ou à tous ceux qui n'aiment pas.
Et ben.
Des bisous.
Bonne soirée.
Bah oui, la bonne nuit
fin
aussi.
De soirée, bonne nuit.
Bonne semaine. Des bisous, tout ça. Bon courage.
Salut Clara. Salut. Merci pour la technique.
À plus. Ciao.